CQFD, votre émission de science et de santé, Stéphane Gabiou.
Et on va commencer tout ça donc avec la rencontre de deux mondes au Macamis.
Et oui, cela se passe il y a près de 9000 ans. C'est la rencontre entre les chasseurs-cueilleurs établis en Europe et les premiers agriculteurs venus d'Anatolie qui remontent le long du Rhin. La fin de l'histoire, on la connaît. Les populations européennes sont devenues majoritairement agricoles et sédentaires. Mais comment s'est passée cette transition ? En douceur, c'est ce que révèle une étude qui se base sur des données génétiques et des simulations informatiques. Et cette étude, elle est parue dans Science Advances et elle nous éclaire sur un chapitre important de notre passé. Au demeurant, on ne parle plus de révolution du néolithique, mais bien d'évolution ou de transition du néolithique.
Et on va explorer cette douceur avec vous, Mathias Cura, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chasseur-cueilleur d'informations scientifiques, c'est joli ça.
C'est joli, effectivement, oui.
Ça vous va bien. Éleveur de données.
Éleveur de données aussi. Et plus précisément, l'un des auteurs donc, de cette publication, vous êtes aussi maître d'enseignement et de recherche au département de génétique et évolution à l'université de Genève. On va reprendre quelques bases toutes simples. L'agriculture, où a-t-elle commencé sur cette terre ?
Alors l'agriculture, elle a commencé à plusieurs endroits dans le monde, mais en ce qui concerne l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, on s'est intéressé à la diffusion de l'agriculture en Europe. Elle a commencé au Moyen-Orient pendant plusieurs millénaires, à peu près 3-4 000 ans, et puis à partir d'environ 8500 ans avant aujourd'hui, eh bien on a la diffusion rapide, on va dire, des différentes composantes du néolithique, que sont la domestication des plantes, des animaux, la poterie et puis la sédentarisation des populations.
Et les populations ont migré, pourquoi ?
Alors c'est une très bonne question pour laquelle on n'a pas vraiment de réponse définitive. C'est probablement multifactoriel. On peut penser aux conditions climatiques, probablement plus favorables à l'agriculture parce que plus chaude et peut-être plus stable. Peut-être des pressions démographiques, probablement aussi des innovations techniques. Donc il y a probablement une combinaison de différents facteurs qui a fait que les gens ont commencé à se déplacer pour trouver des terres arables un peu plus loin.
Et cette migration, elle a emprunté des routes assez particulières.
Alors il y a deux axes principaux de la diffusion du néolithique en Europe. Le premier axe qu'on appelle la route méditerranéenne, depuis la région de la mer Égée en direction de l'Italie, du sud de la France et puis la péninsule ibérique. Et puis une deuxième route qui est celle à laquelle on s'est intéressé dans notre étude, qui est la route qu'on appelle continentale ou danubienne, qui traverse les Balkans et puis jusqu'au nord de l'Allemagne actuelle.
Donc ça c'est pour le contexte. Vous avez modélisé la rencontre justement entre ces deux populations. Vous vous y êtes pris de quelle manière ?
Alors pour modéliser donc cette diffusion du néolithique le long de la route danubienne, eh bien on utilise des modèles mathématiques et puis comme ça devient vite complexe, eh bien aujourd'hui on peut simuler ces modèles mathématiques avec des serveurs informatiques. Donc on va combiner ces modèles pour, dans notre cas, pour simuler les processus qui nous intéressent de la façon la plus simplifiée possible. Et puis dans notre cas, on va simuler l'évolution de populations virtuelles dans une zone qui représente l'Europe et puis leur diversité génétique au cours du temps.
Mais les données génétiques, elles permettent pas de conclure d'un mode de vie ?
Alors non, les données génétiques toutes seules, non, mais c'est une étude multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on se base aussi sur les informations de l'archéologie, donc nos collègues archéologues, qui, en fonction du contexte dans lequel les ossements desquels sont tirés l'ADN, du contexte archéologique, peuvent nous dire s'il s'agit plutôt de chasseurs-cueilleurs ou plutôt d'agriculture néolithique.
Donc concrètement, les populations agricoles se sont installées. Ça a suscité finalement la curiosité des populations locales qui vivaient en Europe, qui étaient plutôt des chasseurs-cueilleurs et qui se sont mis à les imiter, c'est ça ?
Alors, notre étude, notre modèle permet pas vraiment de dire si ce sont plutôt des chasseurs-cueilleurs qui sont devenus des agriculteurs ou bien si ce sont simplement des mélanges, hein, des parents, un agriculteur et une chasseur-cueilleur ou l'inverse, qui ont donné des enfants dans les populations agricoles. Simplement, ce qu'on voit, c'est que les meilleurs modèles, les modèles qui donnent les données virtuelles, génétiques virtuelles, les plus proche des données génétiques observées, sont ceux qui montrent une cohabitation et puis un mélange qui augmente au cours du temps, graduellement, entre les chasseurs-cueilleurs et les néolithiques.
Mais les tailles des populations, elles étaient équivalentes ? Est-ce qu'il y avait de la place pour tout le monde ?
Alors, il y avait de la place pour tout le monde, mais ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a eu une tendance à une augmentation démographique pendant le néolithique, alors qui varie en fonction des régions. Mais simplement, la question, elle est dans quelle mesure il y avait une différence démographique entre les populations de chasseurs-cueilleurs et celles d'agriculteurs. Et puis, nous, précisément, on a essayé d'estimer cette différence et puis on est arrivé à un ordre de grandeur d'environ 5 fois plus d'individus agriculteurs que chasseurs-cueilleurs.
Mais si les populations agricoles étaient plus nombreuses, est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de colonisation pure et simple? C'est un terme qui n'est pas très joli, mais peut-être aussi que le fait d'être sédentaire, d'avoir accès à la nourriture, ça donne des populations plus robustes qui seraient à même de coloniser ce territoire européen.
Alors la génétique, elle a permis, la paléogénétique plutôt, donc l'étude d'ADN ancien tiré d'ossements, a permis de montrer qu'il y avait une migration au début de ces agriculteurs d'Anatolie, parce que c'était un débat sur le long terme en fait, où on savait pas trop si, dans quelle mesure on avait une transmission des connaissances ou plutôt une migration des gens. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un mélange avec les chasseurs-cueilleurs qui progresse au fil du temps. Après, à ma connaissance, il n'y a pas de gros conflits, de traces de conflits à grande échelle. Peut-être quelques conflits régionaux, mais en tout cas, il semblerait que, en tout cas, d'après notre étude, cette transition, elle a été plutôt une coexistence sur le long terme.
Mathias Cura, est-ce qu'on peut savoir combien de temps tout cela a pris?
Alors, la transition néolithique sur l'ensemble de l'Europe, c'est à peu près 5000 ans, un peu moins, si on prend au sens large. Et puis après, ça dépend des régions. Certaines régions, c'était très rapide. Et puis d'autres, comme par exemple mes collègues de l'Université de Mainz ont montré au nord de l'Allemagne, qui avait duré jusqu'à 2000 ans. Donc on a vraiment des choses assez variables.
Donc ça prend du temps, mais concrètement, si on revient juste un petit peu sur la méthode que vous avez employée, on prend de l'ADN, on l'analyse, on met tout ça dans un ordinateur, puis ça nous donne une idée un peu du mélange. Qu'est-ce qui se passe?
Comment alors, on a dans nos modèles, on a des données d'entrée qui sont des paramètres d'entrée qui sont en fait, par exemple, la densité des populations, l'intensité des migrations, l'intensité des mélanges qu'on fait varier. Et puis, on obtient des données génétiques virtuelles pour ces modèles. Donc, on fait des centaines de milliers de simulations. Et puis ensuite, on a des données génétiques réelles, donc qui sont obtenues par nos collègues, en l'occurrence de l'Université de Mainz. Et ces données génétiques réelles, on va les, ce qu'on appelle, processer avec des algorithmes bioinformatiques. Donc ça, c'est ce qui a été fait à l'Université de Fribourg par mes collègues. Et puis ensuite, nous, à Genève, ce qu'on a fait, c'est comparer ces données issues des simulations aux données réelles, avec aussi des algorithmes mathématiques, et puis pour voir en fait lesquels ressemblaient le plus aux données réelles, et donc quels sont les paramètres les plus probables. Et ça, c'est toute une partie qui a été faite par un doctorant dans mon groupe de recherche, Alexandre Soupas, qui a mené cette partie.
Alors, les populations ont suivi deux routes, vous l'avez dit, celle de la Méditerranée par le sud de l'Europe, et celle de l'Anatolie, elles finissent par se rejoindre?
Alors oui, elles finissent par se rejoindre alors dans une zone en gros du nord des Alpes, on va dire en gros entre le bassin parisien et puis le Rhin, où les deux courants se rejoignent effectivement.
Tous les chemins mènent à Paris.
C'est la sédentarisation qui a pris le dessus. Est-ce que les populations agricoles ont intégré des aspects culturels des populations des chasseurs-cueilleurs qui étaient déjà sur place là en Europe, ici en Europe?
Alors oui, il y a des aspects culturels qui se mélangent. Et par exemple, il y a certains sites comme un qu'on a étudié dans cette étude, qui est le site de Lepenskivir en Serbie, pour lequel on a des mélanges de traits culturels de chasseurs-cueilleurs et de traits agriculteurs. Donc par exemple là, on a des populations qui habitent dans des bâtiments et puis qui ont de la poterie, mais qui chassent et qui pêchent. Donc on a un mélange et donc on ne sait pas toujours exactement en fait à qui on a affaire.
Au néolithique, l'agriculture s'est imposée en douceur. Merci pour vos explications, Mathias Cura. Je rappelle que vous êtes maître d'enseignement de recherche au département de génétique évolutive de l'Université de Genève. On souhaite une belle journée à Genève.
Merci de m'avoir reçu.
Avec plaisir, merci.
CQFD.